je tiens évidemment à remercier très chaleureusement les organisateurs, Loïc Levoyer et Emmanuel Aubin, cette opportunité de parler de ce sujet et surtout de participer à ce colloque extrêmement stimulant depuis ce matin. J'ai déjà appris beaucoup et j'en suis donc très heureux et je vous en remercie. Alors, lorsque les organisateurs du colloque m'ont transmis le sujet que j'aurais à traiter, je dois dire qu'à sa lecture, j'ai ressenti une forme d'ambivalence. J'ai d'abord été pris d'une certaine euphorie, dans la mesure où il m'était donné l'opportunité de traiter de l'un des sujets, si ce n'est le sujet le plus fondamental pour tout constitutionnaliste. Mais cette euphorie a rapidement laissé place à une forme d'anxiété. S'engager dans une telle étude vous conduit sur un terrain qui a été très largement labouré par une doctrine extrêmement abondante. On ne compte plus le nombre d'auteurs parmi les plus illustres qui sont intéressés de près ou de loin aux limites à la révision constitutionnelle, qu'on pense pour la doctrine classique française à Joseph Barthélemy, Léon Duguy, Raymond Carré de Malberg, Charles Eisenman ou Georges Burdeau. La doctrine francophone contemporaine a largement renouvelé cette étude, qu'on pense aussi aux travaux de Georges Vedel, évidemment Olivier Beau, Claude Klein, Olivier Jouangean ou bien d'autres. La doctrine étrangère n'est pas en reste, dans la mesure où l'un des auteurs les plus centraux sur le sujet, vous le savez certainement, ce n'est autre que l'allemand Carl Schmitt. La doctrine anglophone sur ce thème est encore plus abondante. Et je pense à une étude très récente d'un auteur israélien, Yaniv Rosnay, qui a renouvelé le débat sur cette question de manière très stimulante. Alors, cette masse doctrinale peut donc laisser perplexe toute personne souhaitant étudier les limites aux révisions constitutionnelles. N'en reste pas moins qu'ayant accepté de traiter un tel sujet, je devais passer outre mes états d'âme et tenter d'appréhender ce sujet complexe, donc des limites à la révision constitutionnelle en France. On peut envisager différentes limites aux révisions, les limites politiques d'abord. On voit comment ces dernières années le Sénat a empêché les majorités présidentielles de réviser la Constitution. Des limites supranationales ensuite. Il apparaît évident que les révisions constitutionnelles qui violeraient les traités de l'Union européenne ou la Convention européenne des droits de l'homme conduiraient les institutions supranationales à condamner la France comme dans le cas de la Pologne ou de la Hongrie. Il n'en reste pas moins que, d'un point de vue strictement constitutionnel, de telles révisions seraient possibles. C'est pourquoi nous nous concentrerons dans cette étude seulement sur les limites constitutionnelles à la révision constitutionnelle dans le cas français. Par ailleurs, j'évoquerai pas le contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles, dans la mesure où il s'agit d'un sujet qui mériterait à lui seul une étude. Il faut ensuite rappeler que la question de la limitation du pouvoir de révision est aussi ancienne en réalité que les constitutions écrites. Comme l'a très justement démontré Arnold Piloer, cette problématique a émergé dans les débats de l'Assemblée nationale constituante de 1789. En particulier, certains députés comme Barnave défendaient l'idée qu'il fallait distinguer entre deux pouvoirs constituants. Le premier serait illimité et illimitable, il serait à l'origine de la Constitution et pourrait l'abolir à tout moment. Le second serait issu de la Constitution et serait alors un pouvoir institué qui pourrait donc être limité. D'autres députés défendaient au contraire l'unité du pouvoir constituant, estimant que celui-ci est toujours illimité. Par conséquent, même le pouvoir de révision de la Constitution ne pourrait faire l'objet de limitations. Ces débats anciens illustrent les problèmes théoriques et pratiques que pose le pouvoir de révision au regard de ses traits particuliers. Parce qu'il est le seul à pouvoir modifier la Constitution, il est souvent présenté comme un pouvoir constituant. Or, s'il est constituant, il devrait être souverain et n'être donc soumis à aucune limite. Toutefois, parce qu'il est créé par la Constitution, le pouvoir de révision s'apparente à un pouvoir constitué qui devrait être soumis à la Constitution et donc être limité. Le débat autour de la nature du pouvoir de révision conditionne très largement les limites dont il fait ou pourrait faire l'objet. C'est pourquoi je démontrerai dans un premier temps que le pouvoir constituant et le pouvoir de révision ne sont pas de même nature. Puis dans un second temps, j'évoquerai les limites qui s'imposent au pouvoir de révision. Donc commençons par la différence de nature entre le pouvoir constituant et le pouvoir de révision. En France, une grande partie de la doctrine distingue, au moins depuis les travaux de Roger Bonnard, le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant institué ou dérivé. Le premier serait un pouvoir inconditionné qui serait à l'origine de la création de la Constitution, le second un pouvoir dérivé de cette Constitution, d'où sa qualification, et qui aurait pour fonction de la réviser. Il n'en reste pas moins que pour la doctrine majoritaire, ces deux pouvoirs demeurent constituants et ont donc la même nature. Il n'existerait alors qu'une différence de degré entre le pouvoir originaire et le pouvoir dérivé. Cette position de la doctrine majoritaire en France a été largement défendue par Georges Vedel. Selon cet auteur, la seule véritable différence entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé est de nature procédurale. L'exercice du pouvoir originaire n'est soumis à aucune procédure, alors que l'exercice du pouvoir dérivé est soumis à la procédure prévue par la Constitution qui l'identifie. Il en résulte que le pouvoir constituant n'est limité que dans la forme de son exercice et non dans son objet. Selon Vedel, le pouvoir de révision est omnicompétent, il peut ainsi librement modifier n'importe quelle disposition de la Constitution, voire l'abroger, dès lors qu'il respecte la procédure prévue. Comme l'avait déjà relevé Olivier Beau, cette position paradoxale visant à distinguer tout en confondant pouvoir d'établir la Constitution et pouvoir de la réviser est justifiée par deux types de considérations différentes. La première justification d'inspiration normativiste est fondée sur l'idée que la Constitution et les lois constitutionnelles de révision se situent au même niveau de la hiérarchie des normes. Elles sont donc toutes deux des normes constitutionnelles. En effet, selon ces auteurs, d'une part, aucune disposition constitutionnelle ne prescrirait une telle hiérarchie, et d'autre part, l'ordre juridique ne connaît pas de normes supérieures aux normes constitutionnelles. Or, selon le principe lex posterior derogat priori, la loi constitutionnelle de révision peut parfaitement modifier, voire abroger, la norme antérieure se situant au même niveau hiérarchique. Il s'agirait alors de l'application d'une simple règle de conflit de loi dans le temps. Une loi constitutionnelle de révision, par définition postérieure, pourrait librement modifier toute disposition de la Constitution antérieure. La seconde justification à l'assimilation du pouvoir constituant au pouvoir de révision se fonde sur la démocratie. Dans une démocratie, c'est le peuple qui est titulaire de la souveraineté et donc du pouvoir constituant. Or, si le peuple intervient dans la procédure de révision pour la ratifier, cela signifie que ce n'est ni plus ni moins que le pouvoir constituant lui-même qui révise la Constitution. Toutefois, contrairement à ce qu'affirme une grande partie de la doctrine, il me semble, avec d'autres auteurs avant moi, que l'assimilation du pouvoir constituant originaire et du pouvoir de révision est très loin d'aller de soi. Il me semble au contraire que le pouvoir constituant originaire et le pouvoir de révision n'ont pas la même nature, et comme dirait Olivier Beau, seul le premier mérite d'ailleurs la qualification de constituant. Les deux justifications avancées par la doctrine pour assimiler pouvoir constituant et pouvoir de révision me paraissent globalement assez fragiles. La première justification apparaît d'abord largement contradictoire. Georges Vedel est capable d'affirmer dans la même phrase que le pouvoir de révision est souverain, sous la seule réserve qu'il s'exerce selon la procédure prévue par la Constitution. Par cette formule, Vedel admet ainsi que, contrairement au pouvoir constituant originaire, le pouvoir de révision doit être identifié à travers une procédure spécifique, car il est issu de la Constitution. L'exercice du pouvoir de révision est ainsi soumis tout entier à une habilitation par la Constitution, et donc au pouvoir constituant. Ce pouvoir de révision ne peut s'exercer que dans le cadre et les limites fixées par cette habilitation. Il est donc avant tout un pouvoir constitué qui n'existe que parce qu'il est prévu par la Constitution. Il est d'ailleurs possible d'imaginer qu'un tel pouvoir de révision n'existe tout simplement pas, que le constituant décide d'interdire explicitement toute révision à la Constitution. Cette idée d'habilitation est parfaitement résumée par Yaniv Rosnay, qui relève que le pouvoir de révision est avant tout un pouvoir délégué par le peuple souverain, à travers la Constitution, à un organe déterminé. Lorsque l'organe habilité exerce ce pouvoir pour réviser la Constitution, il ne le fait qu'au nom du peuple et dans les limites de la compétence qui lui a été accordée par la Constitution. Il ne pourrait excéder ces limites sans violer sa propre délégation et donc la Constitution. Comme le rappelait justement Sieyès, aucun pouvoir délégué ne peut rien changer aux conditions de sa délégation. Ce qui signifie que, contrairement au pouvoir constituant, le pouvoir de révision n'est pas souverain, mais limité par sa propre condition de pouvoir constituer. La seconde justification de nature démocratique apparaît la plus sérieuse, mais tout aussi fragile, tout du moins pour ce qui est du cas français. Il est vrai que si la procédure de révision constitutionnelle prévoit une ratification de la révision par le titulaire de la souveraineté, c'est-à-dire le peuple dans une démocratie, la distinction pouvoir constituant et pouvoir de révision apparaît plus faible. En France, une telle distinction est certes plus faible, mais elle demeure pertinente, en tout cas à mon sens. Le peuple est effectivement titulaire de la souveraineté et donc du pouvoir constituant, mais il est également désigné par l'article 89 de la Constitution de 1958 comme un pouvoir de révision. Le peuple a donc une double casquette. Il est à la fois pouvoir de révision et pouvoir constituant. Il est pouvoir constituant lorsqu'il décide d'abolir la Constitution pour créer un nouvel ordre constitutionnel, mais il est simplement pouvoir de révision lorsqu'il modifie la Constitution en vigueur en respectant les limites qu'elle fixe. C'est donc en réalité l'objet même de la révision qui va déterminer si le peuple exerce le pouvoir constituant ou le pouvoir de révision. En outre, un tel argument démocratique au soutien de la thèse d'assimilation des pouvoirs constituants et de révision n'est valable que si justement le peuple adopte directement l'ensemble des révisions constitutionnelles. Or, dans le cas français, le peuple n'a qu'une place très réduite dans la procédure de révision. C'est connu, sur les 24 révisions constitutionnelles, seulement 2 ont été adoptées par le peuple par la voie du référendum. On voit alors que la distinction entre pouvoir constituant et pouvoir de révision prend tout son sens. L'organe de révision n'est pour l'essentiel pas identique à l'autorité ayant adopté la Constitution. D'un point de vue démocratique, la limitation du pouvoir de révision a alors vocation à prévenir l'appropriation de la souveraineté par l'organe auquel a été délégué un tel pouvoir. Autrement dit, dans le cadre du constitutionnalisme moderne, la limitation du pouvoir de révision vise à préserver la souveraineté du peuple contre les gouvernants. Ce raisonnement conduit inévitablement à la conclusion que le pouvoir de révision, comme n'importe quel pouvoir constitué, peut donc être soumis à des limites. Ce qui nous mène à notre deuxième point, les limites au pouvoir de révision de la Constitution. Lorsqu'on admet que le pouvoir de révision peut être limité par la Constitution, il faut s'interroger sur le type de limitation possible. Les dispositions limitant la révision de la Constitution sont généralement qualifiées soit de formelles, soit de matérielles. Les limitations formelles peuvent prendre la forme de l'interdiction d'une révision avant un certain délai, comme prévu par la Constitution de 1791. Ces limites peuvent être aussi circonstancielles, comme dans la Constitution de 1958, qui interdit les révisions en cas de vacance de la présidence de la République ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. À côté de ces limites formelles, il existe des limites matérielles qui prohibent la révision de certaines parties de la Constitution. L'une des premières constitutions à contenir une telle limitation matérielle est la Constitution norvégienne du 17 mai 1814, qui interdit les révisions qui portera atteinte aux principes et à l'esprit de la Constitution. La première limite matérielle introduite en France est celle apparue avec la loi de révision constitutionnelle du 14 août 1884 qui énonçait, que je cite, « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision ». Une variante de cette formule a été reprise dans les constitutions de 1946 et 1958. À côté de ces limites matérielles explicites, certains auteurs, comme Carl Schmitt, ont pu défendre l'existence de limites matérielles implicites à la révision constitutionnelle. Il existerait ainsi des principes structurels ou fondamentaux de la Constitution qui ne pourraient être révisés sans porter atteinte à la substance de cette Constitution, à son esprit. C'est au fond l'idée d'un noyau dur constitutionnel qui ne pourrait être supprimé sans abolir en même temps la Constitution elle-même. Dans le cas français, on pourrait défendre que certains de ces principes structurels de la Constitution peuvent se déduire tout simplement de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 qui a fixé cinq grands principes que devait respecter le constituant dans l'élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958. Si la doctrine dans son ensemble s'accorde sur la validité des limites formelles, la doctrine majoritaire manifeste un certain scepticisme concernant la légitimité ou le caractère proprement juridique de l'ensemble des limites matérielles. Condorcet s'opposait par exemple à toute idée qu'une partie de la Constitution ne puisse pas faire l'objet d'une révision, car cela conduirait, selon lui, à ce qu'une génération puisse lier pour l'éternité les autres générations. Cette réticence à admettre l'opposabilité des limites matérielles au pouvoir de révision s'est également largement diffusée dans la doctrine plus contemporaine. Par exemple, qu'on pense à Barthélemy Duez, qui qualifiait déjà en 1933 la limite concernant la forme républicaine de gouvernement de barrière de papier. Cette idée que les limites matérielles auraient essentiellement une valeur politique et non juridique est aujourd'hui largement répandue dans la doctrine. Comment expliquer ce scepticisme de la doctrine majoritaire sur la portée des limites matérielles, alors même qu'elle reconnaît la validité des limites formelles ? La doctrine majoritaire, qu'on qualifiera de sceptique, considère en général que de telles limites matérielles sont en tout état de cause ineffectives juridiquement, dans la mesure où elles n'ont pas de véritable caractère contraignant. En d'autres termes, il ne s'agirait pas de limites proprement juridiques, dans la mesure où le pouvoir de révision pourrait parfaitement les contourner. Plusieurs justifications sont généralement avancées au soutien de cette thèse, mais nous ne concentrerons que sur deux d'entre elles. La première justification se fonde sur un raisonnement, ici encore d'inspiration normativiste, selon lequel une limite matérielle ne pourrait s'imposer au pouvoir de révision sans avoir une valeur supraconstitutionnelle. En effet, comme évoqué, ces auteurs assimilent le pouvoir constituant et le pouvoir de révision. Par conséquent, ces limites matérielles ont été créées par le pouvoir constituant originaire et pourraient donc parfaitement être supprimées par le pouvoir constituant dérivé, qui sont de nature identique. Sans quoi, cela donnerait à ces limites une valeur supérieure à la Constitution et au pouvoir constituant lui-même, d'où la référence à la supraconstitutionnalité. La seconde justification se fonde sur une idée qui avait déjà été formulée par Léon Duguit puis Julien Laferrière et qui a été reprise par de nombreux auteurs comme Georges Vedel, qui est celle de la double révision. Il faut en effet remarquer que dans la plupart des constitutions qui prévoient des limites matérielles à la révision constitutionnelle, les articles prévoyant ces limites n'interdisent en général pas leur propre révision. Par exemple, si l'article 89 de la Constitution interdit que soit révisée la forme républicaine du gouvernement, il n'interdit pas explicitement que l'article 89 soit lui-même révisé. Le pouvoir de révision pourrait alors réviser l'article énonçant une telle limite afin de supprimer la limite, puis dans un second temps, réviser la partie de la Constitution qui était initialement intangible. Cette thèse est censée démontrer que le pouvoir de révision n'a pas à se plier à ses limites, dans la mesure où il peut toujours les supprimer s'il souhaite les outrepasser. Toutefois, ici encore, aucun de ces arguments ne nous paraît à même de soutenir la thèse de l'absence de valeur juridique des limites matérielles à la révision constitutionnelle. La première justification apparaît peu convaincante. Je dois avouer que je ne comprends pas bien ce que la supraconstitutionnalité vient faire dans le débat sur les limites matérielles à la révision constitutionnelle. D'autant qu'on peut être surpris que les mêmes auteurs admettent que les limites formelles qui ont un caractère constitutionnel s'imposent au pouvoir de révision, mais que les limites matérielles ne puissent pas s'imposer sans recourir à un discours sur la supraconstitutionnalité. Pourtant, les limites matérielles que j'ai évoquées, qu'elles soient explicites ou implicites, ont seulement la valeur de leur support, c'est-à-dire une valeur constitutionnelle. Il n'est pas utile de faire une quelconque référence à un droit naturel supérieur à la Constitution pour imposer au pouvoir de révision certaines limites. En effet, lorsqu'on admet la distinction du pouvoir constituant et du pouvoir de révision, il faut simplement raisonner en termes de limites à l'habilitation du pouvoir de révision par la Constitution. On ne voit en effet pas ce qui empêche d'un point de vue juridique que le pouvoir constituant interdise au Congrès, auquel a été délégué le pouvoir de révision par l'article 89 de la Constitution, de modifier certaines dispositions de la Constitution. Le Congrès n'étant qu'un pouvoir constitué, il ne peut réviser la Constitution que dans le cadre fixé par le pouvoir constituant, c'est-à-dire le peuple. S'il tentait de réviser une disposition intangible, il sortirait tout simplement du cadre de cette habilitation et ne serait tout simplement plus un pouvoir de révision. Il nous semble donc que les limites matérielles sont directement opposables au Congrès, qui ne pourrait pas réviser, par exemple, la forme républicaine du gouvernement. La question est évidemment plus délicate lorsque l'organe chargé de la révision n'est autre que le peuple lui-même. Dans ce cas, les limites matérielles lui sont-elles opposable. La réponse varie selon que le peuple souhaite demeurer ou non sous l'empire de la Constitution en vigueur. Comme on l'a dit, le peuple est à la fois un pouvoir de révision et un pouvoir constituant. Si le peuple souhaite maintenir la Constitution du 4 octobre 1958, il est alors pouvoir de révision et il ne peut pas abroger les limites matérielles sans abolir la Constitution elle-même, dans la mesure où ces limites constituent les éléments structurants de la Constitution. On ne pourrait plus être sous la Ve République en ayant transformé le régime en monarchie ou en dictature personnelle. Si le peuple supprime ses limites, il est alors pouvoir constituant. Il prend un véritable acte constituant, c'est donc un nouvel ordre constitutionnel qui est créé. Ses limites matérielles sont donc opposables au peuple aussi longtemps qu'il souhaite maintenir en vigueur la Constitution de 1958. Enfin, concernant la seconde justification fondée sur la double révision, il pourrait être argué qu'une telle double révision n'est pas autre chose qu'un détournement de pouvoir, c'est-à-dire l'usage par une autorité de son pouvoir pour des motifs autres que ceux en vue desquels ces pouvoirs lui ont été conférés. Or, on peut déduire logiquement de l'existence même de limites matérielles dans la Constitution de 1958 que le pouvoir de révision n'a pas été délégué au Congrès afin de détruire la Constitution en supprimant les limites qui garantissent justement la pérennité de cette Constitution. Si le constituant a interdit que soit révisée la forme républicaine du gouvernement, c'est qu'il en a certainement déduit que la République est au fondement même de cette Constitution, sa suppression abolirait donc la Constitution. Lorsque l'organe chargé de la révision utilise son pouvoir dans un but contraire au fondement de son habilitation, il commet ni plus ni moins un détournement de pouvoir ou une fraude à la Constitution, pour reprendre le titre d'un article célèbre. Toutefois, encore faudrait-il qu'un organe puisse constater un tel détournement de pouvoir. Or, on sait que le Conseil constitutionnel refuse de contrôler la constitutionnalité des lois constitutionnelles, même adoptées par le Congrès. Pour conclure, il nous semble assez curieux cette résistance d'une grande partie de la doctrine française à refuser toute idée de limite matérielle à la révision constitutionnelle, alors même que sous la Ve République, les révisions constitutionnelles ont été pour l'essentiel adoptées par le Congrès, qui a donc une composition identique à celle du Parlement. Pourquoi accepter que la Constitution puisse être protégée des incursions du pouvoir législatif, mais refuser que la norme suprême ne puisse pas être protégée des incursions du pouvoir de révision, alors que les organes chargés de ces deux pouvoirs sont, d'un point de vue de leur composition, identiques ? Le fait de se déplacer du Palais Bourbon et du Palais du Luxembourg à Versailles est-il de nature à justifier une immunité constitutionnelle du pouvoir de révision ? Enfin, on oppose souvent à l'existence de limites matérielles l'idée que, quand tout est à de cause, elle ne pourrait pas tenir contre un consensus politique ou un coup de force. C'est le grand argument utilisé par la doctrine, qu'au fond, elle serait simplement une forme d'hubris des constituants qui pensent que leur œuvre est éternelle. Mais cet argument est, à mon sens, de faible portée. Les limites matérielles n'ont pas plus ou moins de chances de se maintenir que la Constitution elle-même qui les contient. On ne refuse pas d'admettre la portée juridique de la Constitution parce qu'elle ne serait pas en mesure d'empêcher un coup d'État. Je vous remercie.